l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Et malgré ce qu'on peut dire, c'est bon le lundi de se retrouver pour ce présent ce midi. Mais oui, c'est lundi, début de semaine, mais voilà, le week-end est passé. J'espère que vous l'avez passé fort agréablement, mon cher David.
Ah oui, j'ai passé un très beau week-end. C'était les journées du patrimoine, alors il y avait plein de choses à faire.
Donc exactement, on va en parler un petit peu avec vous, puisqu'avec vous, on parle bien sûr de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Et puis moi, je vais vous amener pas très loin. C'est une commande de café l'Aglo, Tarbes Lourdes Pyrénées. Une commande de café à la GESP, qui va faire un spectacle vendredi soir à l'espace Robert Hossein, avec partenariat de l'Aglo, de la mairie de Tarbes, de la région, du préfet, de la ministère de la Culture. C'est un cabaret festif, un concert décalé, une table ouverte à toutes et à tous. C'est vendredi 28 septembre. Je serai avec Pierre Domingès, le responsable à qui on a commandé. On a fait passer cette commande donc pour ce spectacle à l'espace Robert Hossein. On en parlera avec lui, puis on parlera rapidement de ce qu'est la GESP à Tarbes. Et puis quelqu'un qui est déjà passé, si vous habitez à côté de Radio Présence à Lourdes cet été, mais qu'on rediffuse, c'est Rosine Hamel qui est l'invitée de Passage à Lourdes. Rosine Hamel qui est la sœur du Père Hamel.
Oui, Rosine Hamel qui est venue pendant le pèlerinage national au 15 août donner cette grande conférence, sœur de douleur, avec Madame Kermiche, la mère de l'assassin de son propre frère, le père Jacques Hamel. C'est vrai, vous avez raison de le rediffuser parce que c'est un témoignage très poignant.
Très poignant, on le retrouvera bien sûr en deuxième partie d'émission. Allez, le temps d'un petit jingle et puis on se retrouve pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes en votre compagnie. David, mais vous n'êtes pas seul, vous allez nous présenter bien sûr votre invité.
Radio Présence dans le Luchonnais, 94 FM.
Alors David, chaque semaine, c'est l'actualité du sanctuaire qui nous intéresse. Vous avez un invité aujourd'hui en votre compagnie.
Oui, je suis avec Bastien Chalier. Bonjour Bastien.
Bonjour David.
Vous êtes l'adjoint au responsable du service prévention et sécurité du sanctuaire. Avec vous, on va parler d'un dispositif assez innovant, c'est les pèlerins vigilants. Philippe, peut-être que vous connaissez les voisins vigilants.
Oui, c'est vrai.
Vous savez, c'est ce dispositif, quand on part en vacances, eh bien, on a un voisin plutôt sympa qui regarde votre maison, voir s'il n'y a pas une lampe torche qui s'allume le soir dans votre, dans votre séjour. Exactement, pour au moins donner l'alerte, observer, alerter, signaler, voilà, pour que chacun puisse passer des vacances dans toute quiétude. Eh bien, c'est aussi le cas maintenant à Lourdes, au sanctuaire. Bastien Chalier, les pèlerins vigilants, c'est assez étonnant comme nom. Quel est le principe du pèlerin vigilant ?
Oui, en effet, David, comme tu l'as dit, c'est un projet issu des voisins vigilants qu'on a mis en place au sanctuaire. Donc, sur la thématique du pèlerin vigilant, du fait des pèlerinages qui sont venus à Lourdes, l'objectif pour nous est de donner un certain rôle aux pèlerins. Aux pèlerins volontaires qui pourraient nous faire remonter d'éventuelles informations ou des choses qu'ils verraient durant leur pèlerinage à l'intérieur du site et que nous ne pourrions pas voir via les caméras ou les agents de sécurité.
Oui, évidemment, il y a tout un dispositif de sécurité à l'intérieur du sanctuaire, il y a de nombreux gardes, il y a tout un réseau de caméras, vous voulez dire, de vidéosurveillance, mais en même temps, un lieu qui fait 55 hectares avec 3 200 000 pèlerins qui s'y pressent chaque année, vous ne pouvez pas avoir les yeux partout.
Exactement, oui, c'est tout à fait ça. On est sur un site très 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 grand, avec des problématiques différentes. Le sanctuaire est un lieu déjà sûr de par sa puissance religieuse, mais aussi par le monde qui vient, qui est assez bienveillant. Les gardes sont là en effet pour s'assurer de cette sérénité, mais les pèlerins vigilants apportent ce plus durant leur pèlerinage.
Oui, c'est ça. Finalement, avoir une personne qui puisse être référente pour vous et puis vous faire remonter un colis suspect, un bagage abandonné, par exemple, c'est ça?
Exactement. Ça peut être différents types de problématiques. Une personne qui a chuté, qui a trébuché, qui s'est peut-être fait mal, une personne fragile qui s'est garée de son pèlerinage, ou une personne qui a un sac qui est peut-être ouvert, à qui pourrait lui dire directement de le fermer, ou bien sûr des comportements suspects comme on peut retrouver dans le sanctuaire ou ailleurs dans la vie quotidienne de tous les jours.
Ben oui, évidemment, il faut observer aussi les foules et donc voilà, au moins déceler ce qui pourrait déranger la quiétude des pèlerins. Finalement, en nombre d'interventions, il n'y en a pas tant que ça au regard de la fréquentation.
En effet, au regard de la fréquentation, c'est vrai qu'on recense des millions de pèlerins, donc à cette vue, on n'a pas forcément d'interventions qui sont multiples. Nous, notre service interne assure déjà un grand rôle dans la sécurité du site, et les pèlerins vigilants viennent combler en effet ce dispositif de sécurité.
Il y a besoin de le faire savoir que cette fonction de pèlerin vigilant existe, c'est pour cette raison que vous venez à la radio aussi passer un appel. Ils étaient plus de 600 cette année à être pèlerin vigilant.
Exactement, ils étaient plus de 600. On a recensé différentes informations qui nous ont été très utiles pour nos interventions ou la passation de l'information, plus de 600, et on aimerait faire évoluer ce chiffre pour aussi mettre à l'honneur nos pèlerins qui peuvent avoir un certain rôle durant leur pèlerinage, sans action supplémentaire si ce n'est d'observer discrètement tout en vivant son pèlerinage normalement.
Oui, c'est ça, c'est l'entraide en fait, hein. C'est ça le service, s'entraider, regarder, observer, alerter pour agir vite. C'est ça, hein, le défi, c'est de pouvoir très rapidement intervenir.
Exactement. Le service sécurité, lui, va agir et le pèlerin vigilant va donner l'information. Il ne va pas agir ou se mettre en danger. Il observe discrètement et fait remonter l'information au service sécurité afin qu'on intervienne dans un temps optimal.
Et que vous fassiez aussi intervenir les pompiers, la police, etc.
Oui, tout à fait. On a un travail quand même assez conséquent avec les services externes qui nous aident logiquement sur la gestion de la sécurité au sanctuaire. Et nous, on cumule un peu tout ça et on se démultiplie pour assurer l'accueil des pèlerins du mieux possible.
On est à quelques jours du grand pèlerinage du Rosaire. 15 000 inscrits seront certainement plus nombreux entre le 1er au 4 octobre. Donc là, dans quelques jours et aussi aujourd'hui, nous avons le pèlerinage national italien avec plus de 3000 pèlerins, et que la semaine dernière ils étaient 4200 avec l'Onde Cancer Espérance. Le mois de septembre est extrêmement chargé et c'est important aussi, vous le dites, de bien préparer en amont son pèlerinage aussi en toute sécurité. Quels conseils en fait vous pouvez donner aux organisateurs de pèlerinage, et puis aussi pour rassurer aussi les familles, hein, qui envoient un membre de la famille ou des amis en pèlerinage à Lourdes?
Oui, tout à fait. Un pèlerinage se prépare, que ce soit au niveau organisationnel qu'au niveau sécuritaire. Pour ma partie, moi, sécurité, on est plus sur de l'organisation d'informations, en recensant toutes les personnes différentes présentes dans le pèlerinage, des personnes fragiles qui peuvent être recensées et qui pourraient s'égarer au long de leur pèlerinage. Ou également, en prenant en compte les consignes de sécurité avant d'entrer dans le pèlerinage, pour pas se retrouver bloqué face à certaines difficultés qu'ils pourraient rencontrer ou qui sont interdites durant leur pèlerinage. Donc voilà, c'est surtout une préparation en amont du pèlerinage, et ensuite sur tout ce qui est pèlerinage, il faut le vivre normalement et pleinement. Nous, on est en aucun cas là présent pour empêcher les personnes de le vivre et pour les aider.
On va vous appeler les anges gardiens du sanctuaire d'Espace Philippe. Il y a un dispositif disparition qui est important, parce que ça arrive aussi, hein, dans la foule. On imagine bien, parfois on perd un enfant dans un supermarché et là on passe message micro, on recherche le petit Philippe qui s'est égaré
dans le rayon charcuterie ou dans le rayon biscuit.
mais là non, au sanctuaire c'est pas si simple de faire un appel micro, mais pour autant il y a un dispositif et donc très souvent on retrouve les personnes. Parfois c'est un peu plus difficile. Il y a une chose aussi que vous avez mis en place, cher Bastien, avec l'équipe du service prévention sécurité du sanctuaire, c'est un traducteur en fait qui permet de traduire aux portes du sanctuaire avec donc l'agent de sécurité a ça dans les mains. C'est un outil qui permet de traduire en temps réel, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, on a mis ça en place du fait des retours d'expérience des agents présents aux portes qui sont le premier contact avec le pèlerin aux entrées et ils nous ont fait remonter des difficultés de langue qui parfois ne peuvent pas être facile pour eux du fait.
Ah oui, il faut parler toutes les langues à Lourdes, hein, donc ouais, c'est pas facile.
Tout à fait. Donc on a rencontré cette problématique car on a des personnes du monde entier qui viennent sur le sanctuaire et on a mis en place ce traducteur en phase de test avec une traduction instantanée de plus de 70 langues qui nous permet une première approche sur les évolutions technologiques notamment qui sont présentes dans le monde entier et qui peuvent apporter leur plus aux gardes aux entrées.
On a vraiment, Philippe, c'est pour cette raison que j'ai souhaité que Bastien Chalier représente toute l'équipe du service sécurité, parce qu'au sanctuaire, nous avons à la fois des gens qui ont du talent, qui ont envie aussi de protéger, de transmettre, se mettre aussi au niveau technologique, parce qu'il y a de nouveaux métiers, parce que je crois que c'est ça qui vous tient à cœur, c'est que chacun se sente en sécurité dans le sanctuaire de Lourdes.
Exactement. L'objectif pour nous est d'accueillir les pèlerins tout en mettant en œuvre des moyens de sécurité, mais des moyens d'accueil aussi. Avant tout, on est du personnel d'accueil avant d'être des agents de sécurité comme tout employé du sanctuaire. Donc à nous de se mettre au niveau pour les accueillir du mieux possible.
Voilà, des anges gardiens, moi je trouve pas d'autres mots.
Ça me rappelle mon entretien d'embauche quand j'étais rentré au sanctuaire. On m'avait dit, un garde, quelle est sa première mission? On pense toujours à la sécurité, et non, c'est d'accueillir, parce qu'effectivement, quand on a un uniforme, une personne, elle vient spontanément vous voir pour avoir un renseignement, et effectivement, je crois qu'un des premiers métiers, c'est accueillir et renseigner les gens, hein.
Vous avez fait tous les métiers à Lourdes,
presque,
Philippe.
Presque. Je suis pas resté très longtemps, mais je suis resté un petit mois, mais effectivement, avant d'intégrer ici la radio, donc ça me rappelle, et puis on peut s'apercevoir quand même que ce service s'est drôlement professionnalisé aujourd'hui.
Ouais, exactement. Mais il y a évidemment du niveau, il y a aussi des collaborations avec les services de l'État, avec la préfecture, etc. Parce qu'on sait que c'est une zone qui, du fait du contexte aussi dans lequel nous évoluons, le contexte national, international, fait que le sanctuaire est extrêmement protégé.
Et Roselyne Hamel le dira tout à l'heure dans le magazine de Passage à Lourdes, puisque son frère, malheureusement, a été victime de choses qui peuvent se passer, effectivement. David, on est avec vous, on va faire un petit retour en arrière. Il y avait les journées du patrimoine ce week-end, et puis le départ samedi de Lourdes Cancer Espérance.
Oui, c'est vrai. On est parti, ça c'est typique du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance, on pleure, c'est un peu comme chez les ch'tis, vous voyez, on pleure quand on arrive, on pleure quand on part, et quand on se quitte, ce magnifique pèlerinage que l'on aime dire, le pèlerinage du sourire. 4200 personnes étaient présentes. Monseigneur Mika, donc notre évêque, l'évêque de Tarbes et Lourdes ici, a présidé l'ensemble de ce pèlerinage, et il nous disait combien il avait été touché par notamment ce temps aussi de l'onction des malades dans cette immense basilique Saint-Pidis. On peut que saluer, c'était le 40e anniversaire, elle a été confiée à la direction de Philippe Cavidoche, un local ici, un haut pyrénéen qui a pris et qui avec un certain succès a aussi pu organiser magnifiquement ce pèlerinage en fédérant toutes ses équipes, ses 6500 membres qui sont à travers la France mais aussi en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, avec toutes ces personnes qui forment Lourdes Cancer Espérance sur le territoire, dans les délégations régionales. Il n'y a pas de grande publicité. C'est vraiment une rencontre, très souvent, et ils ont pu nous le dire ici à notre antenne, c'est vraiment une rencontre avec une personne qui soit sort de la maladie, est en rémission, ou qui vit pleinement cette maladie. Et bon, voilà, venir rejoindre, resserrer les rangs de l'espérance. C'est comme ça, vraiment, qu'on peut les appeler. Ces personnes qui, c'est encore une fois, d'autres anges gardiens aussi. On a beaucoup d'anges autour de Lourdes. on a
ça
beaucoup d'anges.
Ça tombe bien pour Lourdes.
Et alors, si vous voulez voir des anges aussi, il y en a de très beaux exposés dans le nouveau centre de ressources historiques. Ça, c'était l'événement du week-end avec les journées du patrimoine. Un lieu d'exposition, notamment, où l'on retrouve des œuvres de l'orfèvre Gucci. Voilà, cet orfèvre d'art sacré contemporain, grande signature de l'art sacré, qui a permis l'exposition de certaines de ses œuvres. Nous avons une belle collection au sanctuaire avec des très beaux anges sur cet ostensoir immense. C'est une des pièces maîtresses de cette exposition. Même si les journées du patrimoine sont finies, nous, vous savez, on continue à Lourdes, on continue toujours. Et donc, elle sera visible en entrée libre au sanctuaire jusqu'au 31 décembre. C'est Gucci à Lourdes. Vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et puis, on a également les photographies de Laurent Etcheverry, un photographe lourdais qui est allé prendre des détails qui ne peuvent pas se voir à l'œil nu. Et puis si aussi, vous savez, le patrimoine à Lourdes, il est vivant. Lourdes n'est pas un musée. N'alimentons pas seulement les lieux d'exposition, mais les pièces de l'orfèvre Gucci, elles composent le cœur même de la basilique du Rosaire, avec cette magnifique colonne eucharistique ou cet ambon qui sont très typiques et signés Gucci. Donc voilà, venez à Lourdes voir cette exposition. Vous verrez, je pense, le cœur de la basilique du Rosaire un petit peu autrement.
Et puis vous allez nous rappeler aussi où se trouve l'endroit où...
Le centre de ressources historiques avec ce lieu d'exposition est juste à côté de la basilique de l'Immaculée Conception, celle qui est tout en haut, qu'on appelle à Lourdes la basilique supérieure. Et elle est juste au pied du chemin de croix. Voilà. Donc c'est parfaitement accessible. Et cette exposition, je vous dis, elle est ouverte chaque jour.
Que l'actualité du sanctuaire est riche chaque semaine. Merci beaucoup, David. Et puis on remercie bien sûr votre invité qui nous a parlé de cette belle opération là, pèlerin vigilant.
Merci Bastien Chalier, merci à tous.
Et on se dit à la semaine prochaine.
Oui, moi je serai là, promis.
Moi aussi, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci.
Et vous ? Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Présence à Montauban, 93.3.
Bonjour Pierre Domingès.
Bonjour Philippe.
C'est un grand plaisir de vous retrouver sur Radio Présence. On va parler d'un bel événement, celui d'un... comment on peut appeler ça, Pierre ?
Alors, le
un cabaret ?
Le nom du spectacle, c'est la Pâtive, mais on appelle ça, c'est un cabaret de gigane.
Un cabaret de gigane, donc qui va être organisé à Lourdes, à l'espace Robert Hossein. C'est vendredi 26 septembre prochain.
À 20h30, voilà.
À 20h30, avec une entrée libre. On va partir un peu à la découverte, bien sûr, de cet événement, hein, de ce cabaret festif, ce cabaret tzigane. Mais avant, j'aimerais qu'on dise deux mots sur... C'est quoi la SMAC La GESP ?
La SMAC La GESP, c'est une scène de musique actuelle qui doit proposer à l'échelon du département, hein, pour rayonner sur le département, diffuser des spectacles de musique actuelle en prenant soin de travailler des découvertes, de présenter les artistes émergents, y compris des artistes accompagnés qui sont les artistes locaux. Ce volet-là, mais il y a tout un volet d'action culturelle, donc un travail dans les collèges, dans les lycées, dans les quartiers, par rapport à Lourdes, avec le club des jeunes de Lourdes, nous montons ce qu'on appelle un rap camp, c'est-à-dire c'est une dizaine de jeunes lourdais qui travaillent avec une dizaine de jeunes de Tarbes autour de la création d'un clip, d'un titre musical. Donc il y a des ateliers d'écriture, il y a des ateliers de mise en bois, mise en musique, et l'objectif est de sortir un morceau qui servira de promotion à la collecte de la banque alimentaire de novembre. Donc on travaille avec ces gamins-là, on travaille sur l'idée de l'engagement, de la citoyenneté, c'est quoi s'engager maintenant. Donc ils ont rencontré, je développe un peu puisque c'est un travail qu'on a en collaboration avec Lourdes, donc ils ont rencontré la banque alimentaire, ils ont participé à des collectes, etc. Et ils vont essayer d'apporter leur vision de la solidarité par le biais de la musique et du rap, quoi.
D'accord.
Et ça, donc, ce sont des actions que l'on mène en dehors de la diffusion artistique. Et vous êtes toujours avec des artistes.
Voilà, et vous êtes support de ce genre de propositions, quoi.
Oui, voilà. Absolument.
À la fois technique, à la fois, bien sûr, aussi dans le rédactionnel, dans la mise en forme et dans la musique.
Oui, dans l'accompagnement. Et puis on repère aussi des artistes qui veulent... Ils veulent faire un petit peu de pédagogie là-dedans et on les intègre au projet et il en ressort toujours quelque chose parce qu'au bout du bout, bon, je vois déjà les gosses qui travaillent avec nous, ils ont déjà envie d'aller plus loin et donc on continuera à les accompagner. L'idée, c'est de ne pas faire un one-shot, mais de continuer à accompagner, de susciter des vocations ou des envies d'aller plus loin musicalement ou dans l'écriture.
Ok, très bien. Eh bien, écoutez, on va parler plus précisément de ce spectacle dont vous organisez le vendredi 26 septembre, donc à l'espace Robert Hossein à Lourdes, avec un cabaret festif, un concert décalé, une table ouverte à toutes et à tous.
Alors oui, c'est un spectacle que l'on propose dans le cadre de ce qu'on appelle l'itinérance culturelle, qui est un projet qui est développé par l'agglo Tarbes Lourdes. On essaie de faire venir tous les ans des artistes qui soient capables et de se comporter sur scène, d'avoir un super concert, une super proposition artistique, mais aussi faire de la médiation. Donc le groupe, c'est la compagnie Tyrolène, qui développe des projets autour des histoires de la mémoire de ces musiques-là, mais il les interprète, il les propose de manière assez décalée, en prenant soin de toujours interroger le public, de faire de l'interactivité, et ce sont des musiciens qui sont d'un niveau, d'un talent extraordinaire. Voici une compagnie qui nous vient de Lille. Et là, ils vont raconter un petit peu le voyage, les musiques de voyage, notamment les musiques ziganes, au départ des pays de l'Est, et au cours de l'histoire de ce voyage, ils vont raconter comment ces musiques ont évolué, comment elles ont inspiré aussi les musiques de maintenant, les musiques, ce qu'on appelle les musiques actuelles de maintenant, comment elles ont inspiré tous ces nouveaux groupes qui sont issus aussi de ces champs de musique. Et donc on les fait venir pendant 2 jours, ils seront là la veille où ils feront ils joueront un spectacle interactif à l'école de Vialadour, à l'école au groupe scolaire de Vialadour, qui s'appelle l'Achodrome, qui veut dire bon voyage en Zigane. Et ils vont raconter aussi cette histoire-là aux gamins, en leur faisant manipuler aussi les instruments, qui sont des instruments typiquement de ce voyage de musique Zigane. Et le lendemain, ils feront le gros concert à la salle Robert Hossein, en format cabaret, donc c'est du assis. Il nous a paru important d'inviter la population lourdaise et d'ailleurs pour vraiment faire découvrir ces artistes-là, parce que ces artistes qui sont quand même plutôt habitués à jouer dans le nord de la France, en Belgique, en Allemagne, etc. Et quand on a la possibilité de les avoir un jour ou deux dans notre Pyrénée, on a vraiment envie de faire partager ce plaisir qu'on a à les écouter.
D'accord. Alors, l'entrée est libre, ça veut dire que c'est gratuit, libre participation, comment ça se passe ?
C'est gratuit, c'est un projet qui est pris en compte dans le cadre d'un partenariat RIA avec l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
D'accord.
Et qui, justement, a pour objectif de développer des projets culturels pour tous, et donc, justement, permettre à un public le plus large possible de découvrir ces artistes-là.
D'accord. Alors, donc, c'est à l'espace Robert Hossein, on l'a dit. Vous avez des partenaires quand même assez emblématiques. Donc, il y a la ville de Tarbes, il y a l'Aglo, il y a la région, il y a le ministère de la Culture, il y a la SACEM, il y a Occitanie en Seine et Tarbes en Seine qui sont partenaires. Hein.
Oui, voilà. Voilà, oui, ce sont tous les partenaires que nous avons à l'année, quoi. C'est l'avantage d'être scène de musique actuelle, c'est un label d'État mm-hmm. et qui déclenche pas mal de partenariats autour du label, notamment mm-hmm. les collectivités territoriales, quoi. Ville de Tarbes, région, département, quoi.
C'est pour quel public, hein ? Vous allez me dire que c'est pour tout public, mais c'est pour qui en particulier ?
Ce concert de Cabaret Digane.
Oui.
Moi, c'est un public qui est... oui, bien sûr que c'est tout public, mais ce sont des musiciens qui peuvent adapter très bien. S'il y a des gamins dans la salle, ils vont aller jouer avec les gamins. Moi, j'ai pensé que Lourdes était une ville idéale pour proposer ce spectacle-là, parce que Lourdes est une ville de métissage. C'est une ville de métissage, c'est une ville de voyage. Les pèlerins qui viennent, etc., des communautés très différentes viennent à Lourdes, quoi. Et moi, quand chaque fois que je prends le train pour Paris et que les gens montent de Lourdes, je vois bien qu'il y a ce métissage, etc. Et cette musique Digane, c'est vraiment la musique du métissage. C'est une musique qui s'est nourrie des histoires et des rencontres des peuples, quoi. Donc, il me semblait que c'était opportun de le faire à Lourdes parce qu'il y a des gens qui sont là, ils viennent pour se rencontrer, pour découvrir aussi. Je pense aux pèlerins, mais je pense aussi aux différentes populations, aux touristes, etc., ceux qui viennent voir quand même une ville assez atypique.
Oui, d'accord. Donc vous avez prévu de le faire donc sur cette ville, comme vous l'avez dit, atypique. Donc ce grand concert. Alors c'est ouvert à tous, vous l'avez dit, c'est entièrement gratuit, c'est financé par l'agglomération et tous les partenaires qu'on a cités. C'est le vendredi 26 septembre à l'espace Robert Hossein, donc c'est à Lourdes et on l'a dit, l'entrée est libre et c'est organisé, bien sûr, vous êtes la cheville ouvrière par la SMAC, la GESP de Tarbes. On termine par votre adresse si on veut avoir des renseignements ou si on veut découvrir un petit peu plus précisément ce qu'est la GESP. Vous êtes où ?
Alors nous sommes à Tarbes. Nous à Tarbes, pas loin du quartier de l'hôpital. Notre adresse, c'est www.lagesp.com. Là, vous pouvez accéder au programme qui est en ligne et à tous les réseaux, enfin tous les liens pour les réseaux sur les réseaux sociaux dans lesquels nous sommes.
Voilà. Et puis bien sûr, on veut plus de renseignements sur ce concert précis. Je pense qu'il y a des informations beaucoup plus complètes que ce qu'on aurait pu dire, même si vous avez été quand même assez complet sur la présentation de ce groupe qui se déroulera. Donc je le répète une dernière fois, le vendredi 26 septembre à l'espace Robert Hossein à Lourdes. Et l'entrée est entièrement libre. Un grand merci à vous, Pierre Domingès.
Merci à vous de m'accueillir, merci.
Comment on peut vous présenter, Pierre, au niveau de la GESP ? Vous êtes le boss, quand même.
Je suis directeur de la structure, voilà.
Voilà, vous êtes le grand patron. Et on aura l'occasion, j'espère, très rapidement, de mettre en avant cette structure qui est la GESP, la SMAC. Vous viendrez lors d'une émission un peu plus longue pour nous expliquer toutes les missions que vous faites.
C'est toujours un plaisir de venir dans vos studios, vraiment.
À très bientôt, Pierre.
Merci beaucoup, Philippe. Merci encore.
Au revoir.
Au revoir.
Radio Présence à Mirande, 104.2.
Voilà une belle proposition pour vendredi prochain, direction l'espace Robert Hossein. Tout de suite, on retrouve le journal présenté par Éric Leclerc.
Bonjour, rassemblement hier à Toulouse en hommage aux victimes de l'explosion de l'usine AZF. Une centaine de personnes se sont réunies près de l'ancien site 24 ans après les faits. Parmi les personnes présentes, la présidente de l'association des sinistrés du 21 septembre, Pauline Miranda, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, le préfet de la Haute-Garonne, Pierre-André Durand, et le président du conseil départemental de la Haute-Garonne, Sébastien Vincini. Exercice aérien et terrestre du 22 au 25 septembre dans le Gers. Le 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales effectuera un exercice dont une partie se déroulera dans l'ouest du Gers du 22 au 25 septembre entre Castelnaudauzan, La Barrère et Nogaro avec des séquences nocturnes. Au cours de cet exercice, des militaires seront déployés au sol, à pied et en véhicule afin de s'entraîner sur des cibles fictives et simulées. Ainsi, plusieurs forces seront engagées en l'air et au sol, dont 8 hélicoptères et 35 militaires. Les riverains seront physiquement prévenus par des militaires avant les séquences. Un château inhabité du XVIe siècle de 400 mètres carrés classé au monument historique situé à Saint-Jory près de Toulouse, en partie détruit par le feu samedi en fin de journée. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis d'éviter la propagation des flammes aux bâtisses situées à proximité. Aucune victime n'est à déplorer. Et puis une trentaine de véhicules détruits par le feu hier dans le quartier de Ginestous à Toulouse. Hier, l'origine de l'incendie n'était pas connue. Accord de réciprocité signé entre Toulouse Métropole et Lannemezan. Ce nouvel engagement renforce l'alliance entre urbains et ruraux portée par ses signataires. Ce contrat de réciprocité fait office de feuille de route. Il répond à plusieurs objectifs. Nouer de fortes relations entre les acteurs économiques des deux territoires, en particulier dans les filières aéronautiques et industrielles. Développer la coopération grâce aux loisirs et au tourisme. Et promouvoir le partage de connaissances sur les thèmes de la transition écologique et du logement pour réduire les potentiels déséquilibres territoriaux. En Tarn-et-Garonne, le cours d'eau, la Barguelonne, amont, est à nouveau en crise. Les têtes de bassins versant des cours d'eau du Quercy restent en difficulté du fait de l'absence de pluie sur ce secteur depuis une semaine. La Barguelonne aval et l'Amboulas sont placés en alerte. Un arrêté de limitation qui ne concerne que les prélèvements d'eau depuis le milieu naturel. Cet arrêté a pris effet samedi dernier à 8h du matin. L'ancien président de l'association Hôpital Sourire, Philippe Sudre, termine la grande boucle des sourires. Pendant un mois, il a parcouru à vélo la région Occitanie, un périple de 2000 km en 26 étapes. Son objectif était de collecter des fonds pour l'association. Philippe Sudre a déjà une longue histoire de défis, ayant récolté plus de 41 000 euros lors de ses précédents tours à vélo. Parti de Cahors le 26 août, il rejoint aujourd'hui la préfecture du Lot pour l'inauguration de la balnéo offerte par Hôpital Sourire au service de soins palliatifs de l'hôpital Cadurcien.
Un grand merci à vous Éric Leclerc. Voilà pour l'actualité de la mi-journée. Le retour, ce sera à 13h pour l'actualité, cette fois-ci nationale et internationale, avec la rédaction française de Radio Vatican. On retrouve tout de suite un témoignage poignant, celui de la sœur du Père Mel qui a été égorgée en 2016 dans son église.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons des sœurs de douleur. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour à vous, Roselyne Hamel. Bienvenue dans cette émission de Passage à Lourdes. Et bonjour à vous, Nassera Kermiche.
Bonjour.
Bienvenue également.
Merci.
Nous recevons également Samuel Liévin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes celui qui a prêté sa plume et permis sans doute aussi, d'une certaine façon, cette rencontre, puisque c'est l'objet d'un livre qui s'appelle « Sœurs de douleur », qui est un récit. Et à la base de ce récit, un drame, une impasse, une impossibilité de se pardonner, de se rencontrer, puisque le 26 juillet 2016, en l'église Saint-Étienne de Rouvray, le père Jacques Hamel, votre frère, est assassiné, et assassiné par arme blanche, par deux jeunes djihadistes. Il se trouve que un de ces jeunes est votre fils. Vous rassemblez, vous voir aujourd'hui dans un même studio, toutes les deux, comme des sœurs de douleur, c'est donner à comprendre qu'un chemin a été fait, long, douloureux, compliqué. Et c'est presque improbable, non, Madame Hamel, que de se dire, mais comment est-ce possible que la maman du bourreau de votre frère soit à vos côtés aujourd'hui? C'est un chemin incroyable, non?
C'est évident que ça ne s'est pas fait très rapidement, ce chemin. Il a été long, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et toujours dans une telle douleur qu'il était difficile, à mon âge, 76 ans à l'époque, de rester debout Il aurait été facile qu'à 76 ans, je me laisse périr, envisager de souffrir cette douleur de l'horreur jusqu'à trop de nombreuses années, je n'ai pas succombé à cette tentation parce que mes enfants ont été sur place lors du drame et ont souffert la même et souffrent encore la même douleur que moi. Donc je me suis mis à réfléchir pendant des semaines à quel serait quel chemin prendre pour avoir un chemin qui ait du sens. Notre foi étant, ma foi étant blackboulée, je me suis posé des questions pendant des semaines, m'habituant à parler toute seule à moi-même, me poser des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. Elles étaient plus ou moins incongrues. Et un jour, je me suis posé une question tellement j'étais lasse d'essayer de vivre cette douleur du mieux que je pouvais. Qui peut souffrir plus que moi ? Et je pensais que c'était une question encore qui n'avait pas de sens. Quoique quelques jours plus tard, il m'est venu l'idée de me mettre à la place de cette maman que je ne connaissais pas. Et m'imaginant que ce qui aurait pu arriver si un de mes fils avait pris ce chemin hors, qui n'avait pas le même sens que l'éducation que je lui ai donnée, quelle serait ma douleur ? Et à la suite de cela, journellement, je me mettais à la place de cette maman et je crois que je sentais ce manteau de douleur, de culpabilité de cette maman. Je me disais, c'est pas possible, ça doit être infernal pour cette mère. Et quoi qu'il y en a bien d'autres que j'ai connues dans mon témoignage qui m'ont témoigné de la même difficulté, je me suis mise en tête de pouvoir communiquer avec cette maman. Et c'est comme ça qu'a commencé notre rencontre par le téléphone, pour commencer.
Alors, Roselyne Hamel, au-delà de la rencontre, il y a de la connivence dorénavant. On va le voir, on va se rendre compte de cette connivence entre vous. Nacera Kermiche, votre fils Adèle, comme elle irréparable. Évidemment, comme le disait à l'instant Roselyne Hamel, c'est la maman qui est frappée au cœur.
Exactement.
Pour vous, cette rencontre, pour que finalement Roselyne devienne votre sœur de douleur, c'est très vite survenu comme une évidence, ou bien pour vous aussi, il a fallu faire un long chemin peut-être de doute, de pleurs, de souffrance?
Alors moi, ça a été une évidence dès le début. J'ai d'ailleurs essayé de contacter les sœurs qui étaient dans l'église en premier lieu.
Tout de suite, vous vous êtes dit,
il me faut
aller à la rencontre de ceux qui souffrent, de ce qu'a commis Adèle.
Voilà, exactement.
Je précise que vous avez une casquette et des lunettes parce qu'on veut préserver
mon anonymat.
Votre anonymat, c'est ça.
Mais voilà. Je ne connaissais pas encore Roselyne Hamel. Mais je savais qu'il y avait les sœurs qui étaient dans l'église, les paroissiens aussi, le monsieur Coponnet avec sa femme. Et je voulais les rencontrer. Donc j'ai essayé de les contacter par le biais d'une amie qui habite près de l'église. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais les sœurs qui étaient dans l'église ? Elle me dit, je peux essayer de chercher pour trouver leur adresse et leur écrire un petit mail. Donc c'est ce qu'elle a fait. Mais je pense que je me suis prise un petit peu trop tôt. C'était à peine 2 mois après le drame. Et elles ont répondu qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'il fallait un peu plus de temps. Donc pour moi, c'était compliqué cette réponse parce que dans mon esprit, je me suis dit, il faut absolument que je les rencontre, que je leur demande pardon pour mon fils, que je puisse les entendre parce qu'elles ont dû être traumatisées, elles ont souffert dans cette église et je voulais absolument les rencontrer. Et quand Roselyne m'a contactée, c'était vraiment un soulagement pour moi parce que je me suis dit, je vais pouvoir parler déjà avec la sœur du père Hamel. Et quand elle m'a proposé de me rencontrer, Je lui ai dit, mais oui, mais ça fait longtemps que je vous attends. Ça fait tellement longtemps que j'attendais cette proposition que j'ai tout de suite dit oui.
Cette première rencontre, on est un peu quand même pas froid, mais on est sur une posture de protection. Roselyne Hamel, non ? On se dit quoi ? Non ? Tout de suite, vous vous dites, ça me libère.
C'était tellement un besoin humain fondamental que je ressentais que... Non, pas vraiment d'appréhension. Un petit doute auquel peut-être cet entretien, je serais un peu déçue. Et l'archevêque de Rouen avec lequel... qui m'a accompagnée, je lui posais la question, tout va bien se passer. Père Dominique, il m'a dit, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Dieu nous accompagne. C'est ça, c'est votre volonté. Si c'est votre volonté, c'est celle de Dieu. Donc, allez, on va rentrer. Et on a frappé à sa porte, tous les deux. Et Nasser a ouvert grand sa porte et ses bras. Et il m'a dit, pardon, madame, pardon. Et je tout de suite... J'ai avancé le pas, j'ai pris dans mes bras, j'ai dit non, je suis pas venue demander un pardon. Je suis venue vous demander s'il était possible de gérer notre douleur ensemble.
On vous sent plus qu'ému, encore aux larmes, de revivre ça.
Oui. C'est un moment tellement plein d'émotions et de satisfaction d'avoir eu cette ambition. De faire ce chemin, que c'était vraiment une émotion hors norme. Et à chaque fois que je renouvelle ce souvenir, c'est comme si que c'était ce jour présent que je revivais.
Vous avez conscience l'une et l'autre que le chemin que vous proposez, il est à vue humaine, il est impossible. Pardonner de... face à ce qui est irréparable à vue humaine.
Oui.
C'est très compliqué, même dans notre monde. Vous en avez conscience, Nasera,
Moi, j'ai conscience de ce que Roselyne a fait.
Mais ce que vous faites, vous aussi, en ouvrant grand vos bras.
Je sais, mais ce que Roselyne a fait, c'est vraiment énorme. C'est courageux, c'est énorme, c'est impensable. Beaucoup de personnes n'auraient pas fait cette démarche. La personne qui a été victime, la plupart du temps, reste à marmonner dans son coin, a de la rancœur, a de la haine, de la colère. Mais Roselyne, pas du tout, au contraire. Elle s'est complètement débarrassée de toutes ces émotions négatives. Et elle est venue vers moi.
Et vous, comme maman, ça vous a apaisé, ça vous a...
Oui.
Soulagé.
C'est vrai que ça m'a beaucoup apaisé, beaucoup soulagé que Roselyne vienne vers moi. Et je pensais pas que ça arriverait, vraiment. Même quand on a commencé à parler ensemble, je m'imaginais pas qu'un jour elle me dirait je vais venir chez vous. Et quand elle est venue, ça m'a tellement fait de bien. Je portais un très lourd fardeau sur mes épaules parce que mon fils avait commis l'irréparable et je me sentais responsable de ce qu'il avait commis et elle m'a aidé à porter ce fardeau et à me sentir moins responsable malgré la culpabilité que je ressens toujours mais ça m'a beaucoup aidé, beaucoup.
Donc, Roselyne, votre intuition de maman, qui peut souffrir plus que moi ? La maman qui elle-même est en proie à cette culpabilité, c'était la bonne intuition de maman qui vous a permis de franchir ce pas.
Voilà, oui. En même temps, je dois être honnête, j'ai découvert que j'avais eu la grâce de ne pas ressentir ce sentiment de haine le jour du drame. Et c'est... Monseigneur l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, qui, quand il est venu préparer les obsèques, a dit Avant de commencer, il faut que je vous pose la question. Donc, nous étions tous en famille et mes enfants, quelques-uns de mes petits-enfants adultes et ma sœur. Et on attendait cette question et il nous dit « Est-ce que vous avez la haine ?» Et curieusement, personne ne répondait. Et un grand silence s'installait et dans ma tête, je me disais « Mais... est-ce qu'on n'a pas ressenti, moi personnellement, c'est vrai que je n'avais pas ressenti cette haine, mais est-ce que nous, communément, on n'avait pas ressenti cette haine, et, ou est-ce qu'on n'ose pas le dire ? Et de ce silence, j'ai ça aussi, je n'oublierai jamais, de ce silence, ma plus jeune fille, Jessica, d'une voix un peu enfantine, s'élève et dit « Mais enfin, mon père, la douleur est tellement énorme, il n'y a pas de place pour la haine. » Et je dois avouer que, voilà, j'ai découvert que on n'avait pas ressenti ce sentiment de haine qui aurait été humain, en fait. Et donc, peut-être que c'est cette grâce que j'ai eue qui m'a conduit à penser, à réfléchir et à ressentir ce qu'une maman pouvait ressentir comme la douleur de Nacera.
Le livre s'intitule « Sœur de douleur » paru chez XO. Donc il est signé Roselyne Hamel, Nacera Kermiche et Samuel Liévin. Je vous propose de marquer une pause dans cette émission. Nous continuons ce dialogue avec vous et justement nous verrons comment Samuel Liévin, qui est directeur de la rédaction du Pèlerin, journaliste, a pu se mettre au service de cette rencontre dont nous disions qu'elle était au départ improbable, eu égard à l'événement fondateur et très très douloureux, le 26 juillet 2016, et c'est cet assassinat du père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne de Rouvray. A tout de suite.
Présence de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier.
Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de témoigner. Vous l'avez fait par écrit à travers ce récit, Sœur de douleur. Récit qui est à la base impossible, puisqu'il s'agit de raconter la rencontre à partir d'un événement de l'assassinat du père Jacques Hamel entre vous, madame, qui êtes la sœur du père Jacques Hamel, Roselyne Hamel, et vous, Nacera Kermiche, qui êtes la maman d'Adèle, un des deux djihadistes qui, avec une arme blanche, perpétue cet assassinat. Et donc vous, Samuel Liévin, vous êtes le directeur de la rédaction du Pèlerin, journaliste. On a l'impression que vous n'avez presque pas votre place, en fait, dans cette rencontre. Je me permets de vous le dire avec beaucoup de simplicité. On se dit, mais comment trouver sa place dans une rencontre qui est celle de deux mamans, dans la douleur, sœur de douleur, un pardon en chemin, puis un pardon grandissant, et puis qui rayonne d'une certaine façon à travers le témoignage aujourd'hui. Vous, quel rôle vous pouvez jouer ? Quel rôle vous avez joué ?
En fait, ça a commencé très simplement en 2018, un an et demi donc après l'assassinat du père Hamel. On se rencontre, Roselyne et moi, autour de la remise du premier prix Jacques Hamel. C'est-à-dire que très vite, la Fédération des médias catholiques se dit un événement pareil, l'onde de choc sur la société fait qu'il faut pouvoir transformer cet événement en une occasion aussi de récompenser un travail journalistique qui ouvre les portes, qui ouvre les horizons. Et donc, il se trouve que j'ai été, l'indigne premier récipiendaire de ce prix que Roselyne m'a remis. Et comme Roselyne, en plus, vient d'Armentières, sa ville d'adoption, qui est la ville où j'ai grandi, très vite, le courant a passé. Il a passé quasiment immédiatement. Le premier soir, on était bras dessous devant la grotte. Et puis, Roselyne était bien mal en point à l'époque physiquement. C'était encore très récent. C'était à la veille d'une opération au poumon. Et donc, on a fait connaissance. Et depuis, on ne s'est plus quitté. À la fois pour des raisons professionnelles, où plusieurs fois, on s'est retrouvés ici, à Lourdes, dans le cadre de ces rencontres et du prix Jacques Hamel. Et puis aussi à titre personnel. Voilà. Et au fur et à mesure, Roselyne m'a parlé de sa rencontre, de ses rencontres avec Nacera. Mais ce n'était pas encore l'objet de les rendre publics. Et puis, les années passant, un jour, elle me dit, écoute, Nacera insiste, elle est elle-même convaincue maintenant de la nécessité de témoigner à son tour. Et c'est comme ça que, quelque part, non pas le duo n'est pas devenu un trio, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai traversé ces événements, évidemment, ce sont elles, mais ça a quand même facilité les choses. C'est-à-dire que j'avais déjà connu dans un premier temps la posture difficile de recevoir un prix Jacques Hamel. Qui est-on ? Qui suis-je en tant que simple journaliste pour recevoir un prix pareil ? Et du coup, bah, quelque part, ça s'inscrivait dans cette suite. Et c'est comme ça que, avec la simplicité en plus bah, de Roselyne et de Nacera, j'ai pu trouver ma place en tant qu'écoutant. Et puis ensuite, bah, voilà, faire cette... j'irais oser une voilà raconter cette histoire en confiance, en se disant voilà, puisqu'on est en confiance, le courant circule, allons-y, et puis c'est comme ça que ça s'est fait, voilà.
Et vous, mesdames, vous lui avez laissé la place qu'il convenait pour vous accompagner dans ce récit. Là aussi, quand on fait un récit où on porte chacun sa vie intérieure aussi de ce que, de la façon dont on a vécu l'événement, il faut converger à un moment. Comment vous avez fait ce travail? Comment vous avez pu faire ce travail de du livre qu'on voit aujourd'hui, qu'on a entre les mains? Vous avez beaucoup parlé.
Oui, déjà, les années ont passé et à chaque fois qu'on se rencontrait, on a remarqué que toutes les deux, on avait beaucoup de choses à échanger, beaucoup parlé, beaucoup échangé, et on prenait plaisir de plus en plus à rencontrer, à s'échanger le modèle de notre vie, le modèle d'éduquer nos enfants, notre chemin qu'on a parcouru avec nos propres épreuves auparavant. Et donc, c'est devenu au fur et à mesure...
une amitié ?
Une amitié, et on a découvert tant de choses l'une sur l'autre, sur nos différents chemins de vie, avec des ressemblances étranges aussi. Et que un jour, une de ses filles, nous entendant parler, elle nous dit, bah, dites donc, vous êtes vraiment des bavardes, à vous deux, vous pourriez écrire un livre.
Et, oui, c'est comme
et
ça.
Donc ça a cheminé.
L'idée a
ça,
germé.
Voilà. Et d'autant plus que on sentait, en parcourant quelques réseaux sociaux, qu'il y avait eu vraiment une incompréhension de notre rencontre. Et elle était tellement fructueuse de paix, et pour nous déjà, retrouver notre paix intérieure. Et quelque part, quand nous étions ensemble, je pense que c'est le seul moment où nous retrouvions un peu de joie de vivre, et que cette incompréhension qui régnait, dont nous faisaient part les réseaux sociaux, nous a incités à raconter notre parcours, le pourquoi, le comment, afin de briser ce mur d'incompréhension qui persistait au bout de 7 ans.
On sent de l'amitié entre vous aujourd'hui.
Oui, c'est...
J'ai parlé de connivence, on vous sent...
Oui, tout à fait. Oui.
Proche.
C'est petit à petit...
Roselyne, tout à l'heure, a réajusté votre casquette. voilà, ça va jusque-là, dans oui, ces petits gestes
d'amitié. Ça va très loin,
d'amitié.
Parce qu'on s'est découvert plein de points communs, plein de... Et quelquefois, on en rigole. On arrive à avoir des fous rires toutes les deux, alors que...
Alors voilà, qu'on n'arrive plus, en famille, à avoir... ce fou rire, même des fois on se dit bon, faudrait peut-être qu'on arrête parce que les gens vont nous prendre pour des folles.
Oui.
Mais c'est tellement bon parce que oui, quand on est en famille, bon, on peut pas dire qu'on fait semblant, mais on n'arrive plus à avoir la joie qu'on avait avant, et on a l'impression d'être là mais pas de participer. C'est pas... Et là, on a découvert que quand on est ensemble, une fois qu'on est un peu débloqué des interviews et qu'on a un peu de liberté, voilà, on a de la joie, on a des fous rires toutes les deux, et on se demande d'où ça vient.
Vous avez sans doute conscience que votre témoignage vous dépasse, surtout dans ce monde où on cherche à cliver, à radicaliser, à opposer, polariser. Enfin, il y a plein de mots aujourd'hui qui disent... Oui. Combien les gens cherchent plutôt la voie de la séparation, de l'éloignement.
Ben justement,
vous envoyez un autre témoignage.
Oui, on veut justement faire passer ce message, de dire ben non, il faut aller vers l'autre, il faut chercher à comprendre l'autre, à découvrir l'autre. Et il y a comme ça qu'on pourra continuer à vivre sur cette terre, parce que les clivages, les séparations, ça fait que des guerres en fait, que des conflits. Alors que si on arrive à se tenir main dans la main et se comprendre les uns les autres, on arrivera à avancer en paix.
Mais vous, Nacera, vous partez de l'étape d'une maman blessée qui a le sentiment d'avoir manqué quelque chose à l'éducation de son fils, qui se sent coupable. Et aujourd'hui, vous dites, je revis.
Oui.
Il y a quelque chose d'apaisé en moi, même si la douleur reste là, évidemment.
La douleur est toujours là. Elle se montre de temps en temps, quand on n'est pas bien, quand on est un petit peu... On a une baisse de régime, on est... Mais c'est vrai que, grâce à cette rencontre, on arrive à surmonter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai.
Samuel, ça n'est pas simple de se mettre au service de cette rencontre. Vous nous l'avez dit, bon, les choses se sont faites au plan très humain au départ. Vous avez, vous, aujourd'hui, comme journaliste, conscience que le témoignage qui est porté là, quelque part, il va au-delà même du témoignage de Roselyne et de Nasser.
Oui, justement, c'est un livre qui fait du bien. C'est ce que j'entends beaucoup. C'est ce que je lis sur, aujourd'hui, les comptes rendus de lecture ou parfois les messages que je reçois à titre personnel. C'est-à-dire que, effectivement, comme on est dans un moment de la société où on le voit bien, même sur le plan politique, les discours sont beaucoup plus extrêmes, on monte beaucoup plus vite aux extrêmes. On est un peu dans une ère on cède facilement à mettre les gens dans les cases, et donc on considère que le courant ne peut pas passer entre tel point de vue et tel point de vue, et là, on part d'une situation apparemment condamnée, et on voit que en réalité la rencontre débloque tout. Et c'est vrai que ça met finalement tout le monde sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire nous, en tant que journalistes, si on fait ce métier, c'est quand même parce qu'on croit que de permettre aux différents points de vue de s'exprimer, aux différentes expériences de se raconter, ça ouvre des horizons. Et là, on voit que même dans les situations apparemment les plus condamnées, c'est le cas. C'est un livre qui opère par sa capacité à dire la rencontre, même dans les situations les plus désespérées, est toujours possible. Oui. C'est l'histoire en fait de deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, avec deux vies finalement parallèles qui se ressemblent, mais qui jusqu'à cet attentat, un matin de semaine du 26 juillet 2016, dans une petite église de la banlieue rouennaise, n'aurait jamais dû se rencontrer. Et en réalité, on voit que de votre rencontre, c'est l'horizon de plein de gens qui ne vivent pas forcément des situations aussi exceptionnelles qui s'illuminent. En tout cas, c'est ce que moi, j'entends comme retour. Voilà.
Ma dernière question concerne Lourdes. Vous êtes de passage à Lourdes. Je crois, Nasera Kermiche, que vous êtes déjà venue à Lourdes.
Oui. C'est mon troisième passage à Lourdes. En fait, la première fois que je suis venue, c'était en 2008. On était de passage. Voilà. En famille. Et on s'est dit, on va s'arrêter, on va visiter, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, on est resté deux jours sur Lourdes. Et on a continué notre chemin pour nos vacances. On partait en vacances.
Ce lieu vous parle ?
Ce lieu me parle parce que ça me reprovoque des souvenirs où j'étais avec mes enfants, avec Adèle, qui était avec nous. Et voilà, c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs qui me reviennent. Et voilà, donc pour moi, c'est un lieu de souvenirs. Voilà.
Vous, Roselyne Hamel, où est-ce que vous... Lourdes est un lieu de foi. Où en êtes-vous avec cette question de la foi?
Je dois avouer que, évidemment, ma foi a été bien perturbée, évidemment. Hein. Mon frère, Jacques, était un religieux. Le fait qu'il a perdu la vie sur les marches de l'autel où il a fini de célébrer la Passion du Christ, c'était... ça m'avait anéanti et oui, ma foi était tellement perturbée que j'ai cru qu'elle était définitivement anéantie. Et c'est pour ça que je dis, le jour où j'ai pris la décision de rencontrer cette maman, c'est pas ma foi qui m'a dirigée, c'est vraiment un sentiment profondément humain, parce que je me suis mis à sa place, et à force de me mettre à sa place, sans la rencontrer, déjà, je partageais son manteau de douleur. Et je souffrais avec elle sans la connaître. Donc, ma foi n'y est pour rien. Mais je veux dire quand même que, quoi que je dis, ma foi n'y est pour rien. Quand je viens à Lourdes, je me remémore ces moments où j'allais à l'église près de chez moi, où il y a une superbe Pietà. Et je priais devant cette Pietà en demandant à la Vierge Marie qu'elle me donne la force de marcher sur les pas de mon frère comme elle a marché sur les pas de son fils après son martyr, et afin que je trouve un sens à ma vie. Donc quelque part, ma foi, elle était quand même toujours vivante, en sommeil, et le fait de me retrouver à Lourdes chaque fois que je suis appelée à témoigner, je pense à ce moment où je priais au pied de cette Pietà retrouver un sens, un chemin qui a un sens à ma vie, c'est-à-dire marcher sur les pas de mon frère.
Merci beaucoup pour cette rencontre. Sœur de douleur, paru chez IXO, signé
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Les reconnaissances de l'État de Palestine se multiplient à l'approche du sommet annuel de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui.